Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Ce qui pourrait définir mon invitée du jour, au-delà du fait qu'elle soit expressive et pétillante, c'est que c'est une slasheuse. Ce terme qu'on attribue aux travailleurs qui exercent plusieurs activités, en référence au fameux signe slash qui pourrait séparer leurs différentes activités quand ils les énumèrent. Alors, un indice sur les slash de mon invitée du jour, assistante sociale slash créatrice de contenu slash prof de yoga. Tu l'as peut-être reconnu, il s'agit de Mathilde, connue sur Instagram sous le pseudo mathilde.yogifit. Mathilde ne se reconnaît pas dans le choix d'une voie unique et assume une philosophie du travail en mode multi plutôt que mono, où elle se donne le droit d'explorer à la fois plusieurs sujets, mais également plusieurs statuts, salariés et entrepreneurs. Si vous hésitez donc à vous consacrer au yoga à 100% ou à l'inverse à diversifier votre activité de prof de yoga, vous serez sans doute inspiré par l'histoire de Mathilde, épanouie par ce mode de vie dans lequel elle trouve son équilibre. Vous découvrirez dans cet épisode son parcours, son cheminement vers ses choix et comment on s'organise pour gérer une vie aussi remplie, mais aussi comment son expérience du yoga en live pendant le confinement a donné naissance à son activité de yoga en ligne. Son avis sur les vidéos YouTube lorsqu'on abordera la frontière entre le contenu gratuit et le contenu payant, mais aussi pourquoi il ne faut pas se brader une discussion sans filtre sur l'argent et le yoga. Créatrice de contenu pour plusieurs marques, on aborde aussi le sujet des collaborations avec Mathilde et vous découvrirez au profit de la nano-influence pourquoi, même si vous n'avez pas un compte avec 50K d'abonnés comme Mathilde, vous avez toutes vos chances potentiellement de pouvoir collaborer avec des marques et améliorer votre visibilité. Bref, encore un échange riche de partage et inspirant dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Je vous invite tout de suite à rejoindre notre conversation.
Eh bien, écoute, bienvenue Mathilde. Je suis ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast.
Merci beaucoup. Bah, écoute, je suis ravie d'être là.
Tu es la bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, donc j'ai présenté déjà ton alias sur Instagram, donc Mathilde YogiFit. C'est ça ?
C'est ça.
À part ce compte Instagram, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi ?
Exactement. Et oui, on ne se réduit pas à un compte Instagram, heureusement. Heureusement, c'est un tout petit bout de nos vies, on va dire. Donc, je m'appelle Mathilde, donc Mathilde YogiFit sur les réseaux. Donc, en effet, je suis surtout du coup identifiée sur les réseaux comme professeure de yoga Ashtanga Vinyasa. J'ai eu mon diplôme il y a maintenant un peu plus d'un an. Je suis aussi du coup donc créatrice de contenu, comme on dit, depuis à peu près, je ne sais plus, ça fait depuis 2015, voilà, depuis 2015. Et avant tout ça, avant d'arriver jusqu'ici, je suis donc assistante sociale depuis 2013, donc ça va faire 8 ans bientôt que je travaille. Mm. Je travaille toujours, d'ailleurs j'ai toujours du coup cette activité. Donc voilà, j'ai un petit peu ces trois activités qui m'occupent bien, qui me passionnent toutes, donc voilà, l'idéal, quoi, l'équilibre parfait.
C'est ton équilibre. Et quand tu dis que tu es créatrice de contenu, c'est plutôt par rapport à la marque pour laquelle tu es ambassadrice ou c'est créatrice de contenu, enfin, tu englobes tout en général pour d'autres marques aussi, pour ton activité toi-même. Qu'est-ce que tu mets sous créatrice de contenu du coup ?
Alors, je mets un peu tout, en effet, puisque j'ai effectivement je suis notamment ambassadrice pour deux marques, pour Gosport, oui, et pour la marque de vêtements Kaizel. Mais je ne travaille pas que pour eux. Je travaille avec plein d'autres marques. Et en effet, pour moi, je crée du contenu, en effet, pour ces marques. Mais je crée aussi du contenu sur des marques, alors parfois en one shot, juste sur une collaboration ponctuelle. Il y a des collaborations qui sont un petit peu plus longues, c'est vraiment très variable. Et puis, bah, je crée du contenu aussi pour moi-même, alors à la fois pour mon plaisir, j'ai envie de dire, et puis dans un but aussi un petit peu plus professionnel pour, bah, voilà, pour aussi pouvoir expliquer un petit peu ce que je propose au niveau du yoga notamment.
Pour promouvoir tes offres, tes cours, voilà. Tes retraites et tout ça aussi, ouais.
Exactement.
Okay. Exactement. Bah, de toute façon, on reviendra un petit peu sur cette partie ambassadrice et puis surtout aussi collab, parce que c'est vrai que c'est un sujet que j'aime bien aborder, donc on y reviendra tout à l'heure. Mais j'avais envie, moi, de revenir sur tes débuts en tant que prof de yoga, puisqu'à l'époque, j'ai suivi ton yoga teacher training, enfin, je t'ai suivi dans tes aventures yoga teacher training, puisque tu as fait ton yoga teacher training avec... All Yoga, donc qui est aussi
training,
je dois aussi faire le mien All Yoga Training, je dois aussi faire le mien avec eux et je partais normalement quelques mois plus tard. Bon, la vie a fait que ça s'est passé autrement. Donc, je me souviens t'avoir vraiment suivi pendant cette période. C'était en Thaïlande pour toi. Et, et du coup, donc, je me souviens que tu rentres en France. Et puis, derrière, tu proposais des cours de yoga, bah, notamment avec GoSport. Et puis, bah, finalement, le confinement est arrivé quand même très, très vite. Alors, comment ça se passe quand on est finalement… Alors, j'ai envie de dire que toi, il y a eu le confinement qui est arrivé très vite. Mais du coup… finalement, quand on devient prof de yoga aujourd'hui, en fait, quelque part sans le présentiel, comment ça se passe? Alors, toi, tu as eu la transition. Donc peut-être si tu veux nous reparler un petit peu de ce truc qui est tombé comme un couperet et comment tu l'as vécu. Mais aussi, à ton avis, bah, c'est quoi aujourd'hui devenir prof de yoga dans le contexte actuel, finalement? Ça fait deux questions alors, en une, mais…
Alors, en effet… En effet, il s'est passé quelque chose qui n'était pas prévu, hein, c'est sûr. Bon, ceci dit, moi, dans ma vie, de façon générale, rien n'est jamais vraiment prévu. Donc, bon, voilà, je suis un peu habituée, entre guillemets, parce que j'ai toujours cette sensation que tout ce qui m'arrive ça n'a jamais été vraiment prévu. Hein. Je ne pensais pas devenir prof de yoga, je ne pensais pas devenir créatrice de contenu. Tout ça, il n'y a jamais eu un espèce de plan où je me suis dit, ok, dans tant de temps, je vais faire ça, dans tant de temps, je vais faire ça. C'est un peu les opportunités de la vie qui sont présentées et je pense que j'ai su les saisir, j'ai osé les saisir et me voilà où j'en suis. Donc, c'est vrai qu'au départ, donc je pars faire ma formation, j'ai GoSport en filet de sécurité qui me dit, bah voilà, nous, on veut t'accompagner sur ce projet-là. On développe les sessions. Donc, alors, je dis sport en général, même si le yoga n'est pas un sport, mais de façon générale, ils veulent développer en magasin du renfort, de la boxe, du yoga, de la course à pied, etc. Ils me disent, bah, t'es notre ambassadrice, nous, on a vraiment très envie de t'accompagner là-dessus. Et ben, en fait, quand tu rentres, t'as déjà des heures qui sont programmées. Donc, je me dis, ok, j'ai un filet de sécurité comme j'en aurais jamais. Je peux passer à peu près sereinement à mi-temps sur mon poste sans avoir peur bah, d'une grosse perte financière. Et ça, clairement, c'est le nerf de la guerre, on va pas se mentir. Donc voilà, je pars sereinement, je reviens, je commence mes cours, ça se passe bien. Donc pendant un mois et demi, j'ai pu pratiquer, j'avais 5 cours par semaine dans un magasin GoSport. Ça se passe hyper bien, enfin voilà, vraiment très bien. Ok, le confinement arrive, bon bah forcément GoSport s'arrête.
Ouais.
Et en fait, au départ, moi j'avais pas du tout pensé, je suis pas très adepte des cours en ligne, même moi je n'en suis pas particulièrement, je ne sais pas être très rigoureuse si j'ai pas un prof en face de moi, enfin voilà. Donc en fait au départ je n'y pense pas trop, il se trouve qu'à ce moment-là je vis seule, donc je suis confinée seule, et je me dis… Là, je pense à moi en me disant, tu vas péter les plombs, va falloir trouver quelque chose pour t'occuper. Donc, en fait, je me souviens que le confinement, c'était genre un mardi soir ou un mercredi, je ne sais plus. Le soir même, je commence à faire un live yoga en me disant, bah, je vais aller tous les soirs, c'était 18h, je crois, tous les soirs, je vais faire un live yoga. Et en fait, comme ça, je sais que tous les jours dans ma journée, j'ai quelque chose qui est prévu, en fait. J'ai un objectif dans ma journée. Et je me connais, ça va m'aider. Donc, on a fait ça du lundi au dimanche pendant 8 semaines. Bon, moi, j'étais KO à la fin des 8 semaines.
Tu m'étonnes. C'est vrai que c'était tous les jours. Hein. Enfin, c'était…
Bah, c'était tous les jours. Et en plus, il y avait aussi des lives sur au moins deux ou trois autres comptes. Je sais plus qu'en fait,
oui, sur, ouais,
tous les jours, j'avais entre, voilà, tous les jours, j'avais entre deux ou trois lives. Donc moi, j'ai fini le corps en vrac. Hein. Bon. Mais c'était intense, mais c'était super. Et objectif atteint, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer en confinement. Donc
ça a marché. Ouais.
Voilà. Et en fait, donc en fait, à la base, il y avait aucune attente particulière, si ce n'est initialement de moi survivre, on va dire. Donc c'était vraiment pour moi au départ que je l'avais fait. Et en fait, j'ai vu cet engouement et surtout cette régularité, cette rigueur, ce rendez-vous en fait que les gens avaient vraiment intégré dans leur emploi du temps. Et en fait, surtout un peu pas la détresse, n'allons pas jusque là, mais en tout cas l'envie, le besoin de
le
des
besoin
gens.
Ouais.
Et en fait beaucoup de, parce que bon, moi je sais que j'échange énormément avec avec mes abonnés, enfin il y a un bon noyau avec lequel j'échange vraiment très régulièrement, et il y en avait plusieurs qui me disaient, mais en fait il va se passer quoi après, enfin nous on n'a pas envie d'arrêter, physiquement je vois un mieux-être, moralement je me sens bien, j'ai pas envie d'arrêter, et si ça s'arrête je sais pas trop vers quoi me diriger en fait. Et à ce moment-là, c'est vrai que je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment un peu de rendre tout ça un petit peu plus ordonné. Donc, je me suis dit, bon, bah, on va créer un site internet. Donc, je travaillais avec quelqu'un qui, du coup, m'a créé un site internet. Et puis, on s'est dit, bon, bah, là, ça fonctionne bien en live. Maintenant, il faut aussi gagner sa vie parce que bah, là, pendant 2 mois… Alors, c'était gratuit, oui, non. C'est-à-dire que moi, je le faisais gratuitement. Mais en fait, j'avais, ça c'est mon côté social, toutes les semaines, j'avais ouvert une cagnotte et toutes les semaines, je disais aux gens, ben voilà, je vous fais confiance, cette cagnotte, elle est ouverte. Je ne vais pas aller checker si tout le monde participe ou pas, mais voilà, jouez le jeu toutes les semaines, mettez une somme sur cette cagnotte, un peu comme si vous payez un cours en fait, sauf que vous mettez ce que vous voulez et à la fin, cette cagnotte, elle sera reversée. Donc, on choisissait toutes les semaines une association. La première
tu
semaine,
reversais la totalité, je sais plus.
Ouais.
Ouais, ouais, tu reversais la totalité. Ouais.
Et en fait, pour tout te dire, la première semaine, j'avais dit aux gens, bah, en gros, moi, je prends la moitié et l'autre moitié, je le verse à l'asso. Et en fait, les sommes, elles étaient tellement énormes, je me suis dit non, mais en fait, je peux pas prendre cet argent pour moi. Enfin, je me sentais un peu mal à l'aise. Donc après, j'ai dit bon, en fait, vous savez quoi, on va tout verser à l'asso parce que déjà là, vous m'avez déjà versé une somme qui était assez conséquente. Donc, en fait, on a commencé avec des donations. La première donation, c'était, je sais plus, 750 euros, je crois. Et à la fin, on a fini avec des semaines où on donnait plus de 2000 euros. Enfin, c'était,
oui, c'était énorme.
Incroyable. C'était énorme. Donc, c'était vraiment très chouette. Et donc, après, j'ai dit aux gens, moi, j'ai dit, bah, voilà, les 2 mois de confinement sont terminés. Moi, il faut aussi que je gagne ma vie. On ne va pas faire du live toute la vie comme ça. Donc, bah, je vous propose. On va faire ça du coup sur Zoom. Donc, moi, je ne connaissais pas Zoom, hein, bah, comme beaucoup de gens. Hein. On va faire ça sur Zoom. Et puis, bah, par contre, voilà, les cours seront payants. Alors, bon, bah, il y en a qui ont été hyper contents. Il y a des gens qui n'étaient pas contents parce que bah, voilà, la gratuité, les gens aiment bien. Hein, et puis, on sait ouais, bien. Ouais. Tu donnes ça, on te prend ça. C'est,
ouais,
c'est,
ouais, ouais. C'est, non, mais c'est intéressant ouais, d'en parler parce que.
Je pense que les gens qui se sont qui ont manifesté un éventuel mécontentement. Je pense que c'est des gens qui déjà ne participaient pas forcément aux cagnottes.
Ouais.
Tant pis, j'ai envie de dire, c'est eux et leur conscience. Donc, voilà, c'est pas grave. Ça n'a pas empêché qu'on fasse des choses positives. Mais en tout cas, moi, je pense que c'était important de dire, ben voilà, vous avez eu quelque part un peu 2 mois d'essai. Bon, 2 mois d'essai, ça vous a permis de savoir si ça vous plaisait ou pas. Si vraiment vous avez envie de continuer, bah, c'est comme ça, c'est comme tout. Rien n'est gratuit dans la vie. Donc, ben voilà, on passe sur des cours payants. Et l'accueil a été quand même vraiment très positif.
Oui.
Et il y a vraiment eu, pareil, à nouveau, un bon noyau qui s'est inscrit, qui est toujours présent. Alors, il y a des allers-retours, hein, parce qu'il y a des moments où on a moins de temps, il y a des moments où on a autre chose à faire. Il y a des filles, je ne sais pas, qui tombent enceintes ou on perd des problèmes de santé. Enfin, voilà, donc, il y a des allers-retours. Mais globalement, il y a vraiment un bon noyau qui est là. Et donc, bah là, du coup, on est en avril. J'ai commencé le 26 mai, un truc comme ça. Donc voilà, ça va faire presque un an que ces cours en.
Ouais, c'est vrai, finalement, c'est déjà presque un an.
Ouais. Et ça fonctionne bien. On a, alors j'ai testé plusieurs jours, plusieurs horaires. J'ai mis un petit peu de temps à vraiment stabiliser un petit peu les cours.
Ouais, mais ça c'est intéressant. Ouais. Comment tu as fait justement pour trouver ton, ta régularité, ta fréquence, ton concept, quoi.
Au départ, toutes les semaines, je pense que pendant presque 2 mois, toutes les semaines, je changeais un peu les jours, les heures. J'essayais un petit peu différentes choses. Parce que moi, j'avais aussi mon activité à l'hôpital où il faut combiner. Et au final, voilà, j'ai réussi à trouver, il y a 3 à 4 cours par semaine. En fait, je donne un cours du coup le lundi, mardi, mercredi soir. Sur des horaires différents, il y a 19h, 19h30, 18h30. Comme ça permet à des emplois du temps différents. Et au départ, je faisais tous les samedis. Bon, je t'avoue que tous les samedis, voilà, tu as aussi une vie, tu as aussi envie de faire des choses. Donc, maintenant, on est passé sur un samedi sur deux. Pour les gens qui veulent, enfin, qui ne peuvent pas, parce que tout le monde ne peut pas se payer des cours, ça, c'est aussi une réalité. Donc, j'ai quand même continué un cours en live avec GoSport le jeudi soir à 19h. Ce qui permet à mes élèves, si elles le souhaitent, d'avoir aussi un cours supplémentaire gratuitement. À ceux qui ne peuvent pas se payer de cours, de pouvoir quand même faire un cours par semaine. Moi, ça n'impacte pas particulièrement mon activité. Parce que, bien sûr, on m'a beaucoup sollicité pour faire des lives. Et c'est vrai que moi, je suis partie du principe que, GoSport, je suis engagée auprès d'eux. À la base, on faisait des cours présentiels ensemble. Donc, je trouve ça totalement normal de pouvoir toujours leur proposer des cours. Par contre, je ne veux pas non plus que ces lives, quelque part, viennent mettre à mal, moi, ce que je propose de payant.
Oui.
Trouver
le juste équilibre.
Voilà. Une fois par semaine. De temps en temps, très ponctuellement, ça m'est arrivé de faire un live. C'est très rare, mais ça m'est arrivé de faire un live pour une marque, mais vraiment juste comme ça, sur un one shot. Et voilà.
Alors, c'est est-ce que justement tu penses quand même, je ne peux pas te dire si tu avais lancé tes cours directement payants, est-ce que tu penses que ça aurait marché ou pas, parce qu'en plus, tu avais déjà quand même une grosse communauté d'abonnés, alors pas forcément que des yogis, mais c'est vrai que ça ne serait pas forcément, on va dire que voilà, ce n'est pas le cas de tous les profs de yoga aujourd'hui, donc je ne vais pas forcément partir sur ce terrain-là. Par contre, est-ce que tu penses aujourd'hui qu'une prof de yoga qui est pas forcément connue finalement et qui met en place des cours en ligne, enfin, quand je dis qu'elle n'est pas forcément connue, c'est qu'il n'y a pas encore une grosse audience ou tu vois, qui est en train de se faire connaître, si elle met en place des cours en ligne, est-ce que tu penses quand même que ce fait d'avoir un cours gratuit de temps en temps, un live gratuit, c'est nécessaire pour amener les gens à tes cours payants?
Alors, comme tu le dis, je pense que, bon, moi, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir déjà une communauté qui me connaît déjà quand même dans le sport, dans le yoga. Donc, il y a déjà un peu une relation de confiance quelque part qui s'est instaurée. Et je pense qu'il y a aussi la curiosité qui a poussé peut-être certaines personnes à se dire, tiens, mais voyons voir ce que ça donne. Donc, il y a ça. Donc déjà, quand tu communiques, déjà, tu as quand même une force de frappe assez importante parce qu'il y a pas mal de gens qui vont voir ce que tu fais. Et ensuite, il y a effectivement toute cette phase de confinement qui, comme je le disais, était un peu une espèce de période d'essai. Donc, les gens savaient à quoi s'attendre. Effectivement, je pense que le pouvoir proposer un petit peu de contenu gratuit, ça permet effectivement aux gens de voir un peu à quoi ils vont s'attendre. Après, c'est toujours pareil. Enfin, il y a certains professeurs, parfois je vois sur les réseaux, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne vont pas avoir autant d'élèves que souhaités à leur cours. Mais à côté de ça, qui ont une chaîne YouTube et qui balancent des dizaines et des dizaines de cours gratuits. Pourquoi aller payer un cours si on peut avoir un contenu gratuit? Surtout si on peut en avoir de façon très régulière, un petit peu à la demande comme ça. Donc, comme tu dis, il y a un juste équilibre à trouver. Le problème de la vidéo YouTube, c'est qu'elle reste, c'est qu'il y a des gens qui, ça se trouve, ils refont 10 fois ton cours. Ça ne les gêne pas de refaire tout le temps le même cours. Et donc, pareil, ils ne vont pas avoir envie d'aller payer un cours. Le live, ce qui est pas mal, c'est que c'est quelque chose d'instantané. Tu peux éventuellement le laisser sur ton compte, mais c'est toi qui décides combien de temps tu vas le laisser. Donc, tu peux dire, je le laisse 3 jours, une semaine, 24 heures. Et puis ensuite, il disparaît. Donc, ce qui permet aussi que les gens essaient de se caler aussi un petit peu sur toi, le moment que tu proposes, etc. Et puis, après, c'est pareil, il y a beaucoup aussi de, par exemple, d'IGTV où voilà, tu vas avoir une prof de yoga qui fait un flow superbe, etc. Mais en fait, moi, je suis pratiquante, je ne vais pas arriver à le suivre parce que j'ai besoin qu'elle parle, j'ai besoin qu'elle explique. Il n'y a pas de guidance. Donc, en fait, c'est très beau, c'est magnifique, c'est agréable à regarder. Mais je ne pense pas que tu... Ben, non, mais c'est joli, mais enfin, voilà, ça ne sert pas... Ouais. En tout cas, ça n'a pas d'utilité pour apprendre, tu vois.
Ouais, et pour le, du donc, coup, pour ton business, ouais.
Voilà, donc je pense que le live, c'est pas mal. Alors, peut-être qu'au départ, tu n'auras que 10 personnes sur ton live. Ben, c'est pas grave, parce que ces 10 personnes, peut-être qu'elles vont en parler à 10 autres personnes. Et au fur et à mesure, enfin, tu vois, et en fait, ça grossit comme ça. Après, c'est sûr que les réseaux sociaux, et notamment Instagram, c'est quand même un très bon vecteur pour se faire connaître. Je pense qu'il ne faut pas aussi, enfin, faut pas hésiter aussi peut-être à se faire conseiller. Et que ça fait partie un petit peu de ta stratégie marketing, on va dire. Donc, ça peut être intéressant. Donc, voilà, trouver le juste équilibre. Et effectivement, bah, un live par semaine. Et après, ce qui est important aussi, et moi, c'est aussi ce que j'essaie de faire dans mon live. Moi, mes cours, par exemple, durent une heure. Une heure avec une construction qui est toujours un peu la même, avec un temps d'échauffement, un exercice de respiration. Ensuite, il y a le cœur, on va dire, du cours avec un flow assez dynamique, assez intense. Et ensuite, un vrai 5-10 minutes de relaxation, de méditation guidée, etc. Bien sûr, dans mon live, je vais pas proposer tout ça. Parce qu'en fait, le live doit rester... Alors, je ne vais pas faire un cours de 15 minutes, c'est des cours de 30 à 45 minutes. Forcément, je ne vais pas autant le développer que ce que je propose dans mes cours pour qu'il y ait aussi une différence entre ceux qui payent et ceux qui ne payent pas, quelque part.
Bien sûr.
Et que ça donne aussi envie d'aller voir sur un cours plus complet ce qu'on va pouvoir y trouver. Tu vois ?
C'est effectivement c'est vraiment l'avant-goût, quoi. C'est l'échantillon, quoi, le live. C'est pour ça qu'il faut que ça reste à un niveau échantillon. Et j'aime bien ce que tu as dit aussi sur YouTube par rapport aux vidéos. Parce que moi, je recommande beaucoup, du coup, à mes élèves ou à mes coachés, plutôt des vidéos quick wins. Donc, dans le sens où des vidéos, voilà, de 5-10 minutes où juste, tu sais, tu peux, voilà, pour te faire connaître, pour te faire référencer, donner voilà des petits tips comme tu peux le faire sur une posture ou sur une respiration ou autre, mais effectivement de pas forcément donner un cours complet construit parce qu'effectivement après sinon tu te fais une bibliothèque de vidéos et puis tu ne consommes que du gratuit. Et il faut je crois qu'il y a ce fait de laisser un peu le mystère sur ce qu'on va délivrer dans nos cours payants, dans notre offre payante en fait, qui fait aussi que les gens ont envie du coup de travailler avec nous si on n'en donne pas trop. Mais en même temps, comme tu le dis très justement, je pense qu'il faut savoir aussi montrer un petit peu quand même pour créer le lien de confiance et pour que petit à petit, ça fasse aussi effet cumulé, enfin boule de neige quoi, en tout cas, exactement.
C'est ça. Et après, je pense qu'il y a aussi une question qu'il faut se poser, c'est sur les réseaux, qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce que je cherche de potentiels clients, de potentiels élèves ? Et est-ce que j'ai besoin d'en avoir 10 000 ? Ben non. Ou est-ce que je recherche la visibilité et quelque part... alors oui, bien sûr, si on est prof de yoga, mais qu'on aimerait aussi développer toute cette partie collaboration avec des marques, bon, ben là, c'est assez important d'avoir quand même une base d'abonnés, une communauté assez importante, encore que de plus en plus les marques vont vers ce qu'ils appellent
les micro-influenceurs.
Et tu peux avoir 3000 abonnés et avoir des contrats identiques à quelqu'un qui en a 15 000. Donc après, c'est aussi ça la question. Et moi, je sais que je me la pose énormément parce que, alors, on entend beaucoup. Alors, moi, c'est un truc sur lequel je ne me plains pas du tout pour les réseaux parce que j'estime que ce n'est pas le lieu pour. Mais on entend beaucoup l'algorithme Instagram, c'est compliqué. Alors moi, clairement, quand j'ai commencé en 2015, c'est sûr que c'était, c'était pumpé là, quoi. À dire tous les jours, ça montait. Tu te posais même pas la question. Il y avait une visibilité incroyable parce que il n'y avait pas de calcul particulier de la part de la plateforme, on va dire. Donc c'était très naturel, quoi. Et maintenant, il y a des vraies réflexions. Il faut vraiment cogiter. Et moi-même, parfois, ça m'énerve de me dire, avant, je montais tout le temps, c'était exponentiel, et puis en fait, maintenant, c'est plus le cas. Et parfois, je me dis, ok, détends-toi, parce que en fait, imaginons même demain tu te fais pirater ton compte disparaît, en fait tu as quand même une base de clients et ces clients ils vont pas disparaître parce que, alors peut-être certains disparaîtront parce que tu n'es plus présente sur les réseaux, mais il y en a quand même, je pense, une majorité qui resteront parce qu'en fait, ils aiment ton travail en tant que prof et pas que en tant que Mathilde Olifit sur les réseaux. Donc après, ouais. Il y a aussi cette question. Et je pense qu'il y a des gens qui balancent à gogo des vidéos sur YouTube pour aussi augmenter cette visibilité. Mais du coup, ça va un peu casser cette dynamique au niveau du fait de vraiment avoir des vrais élèves, une vraie clientèle, entre guillemets. Donc, il faut aussi savoir doser ça et qu'est-ce qu'on cherche vraiment.
Mais je pense que c'est ça le vrai point, tu as mis le doigt dessus. En fait, c'est il y a plein de choses qu'on peut faire sur tous les différents réseaux ou plateformes comme YouTube. Mais la première question, c'est quelle est ma stratégie? Où est-ce que je veux emmener mon business? Et donc, quels sont mes objectifs? Est-ce que c'est un objectif de visibilité? Est-ce que c'est un objectif de effectivement développer mes clients? Est-ce que c'est un objectif de vente? Est-ce que c'est un objectif de notoriété? Est-ce que c'est moi je sais aussi que c'est les sujets sur lesquels on travaille en coaching ou dans mes formations, parce que l'utilisation d'un réseau ou d'une plateforme, elle doit avoir effectivement un objectif bien défini, et c'est la stratégie qui va faire qu'on va avoir des résultats. C'est pas d'utiliser le dernier hack à la mode de telle plateforme ou autre. Ça, c'est quelque chose qui peut vite tomber dans l'obsolescence et effectivement être après lié à tout ce qui est algorithme ou autre. Et donc, c'est pas effectivement comme ça qu'il faut raisonner, mais c'est important d'en parler, parce que j'entends aussi trop souvent Instagram, l'algorithme, et puis j'arrive pas, ça monte pas, etc. Mais voilà, est-ce que derrière les objectifs sont bien clairs? Qu'est-ce que je veux y faire? Comment je mets ce réseau ou cette plateforme au service de mon business? Et non pas je publie pour publier ou je parle en story pour parler en story, mais je ne sais pas où je veux aller, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, ça doit être utilisé à bon escient, quoi.
Ben, c'est ça. Et après, je vois du coup un peu l'évolution depuis maintenant 6 ans que je suis sur réseau. De plus en plus, les gens vraiment ont compris que Instagram, c'était un levier important pour se faire connaître, pour avoir de la visibilité, ça c'est sûr. Et pour vendre, en fait. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui se mettent une énorme pression avec ça et qui créent vraiment ce compte avec cet objectif tout de suite de « je veux augmenter mes revenus, mes bénéfices, etc. » Et c'est sûr que… moi, c'est sûr que c'est un peu différent parce que, tu vois, moi, quand j'ai créé Instagram, alors déjà, je ne connaissais pas à la base. Il y a 6 ans, ce n'était pas aussi développé. Ça commençait à l'être, mais c'était assez différent. Et moi, à la base, c'était juste pour me motiver à faire du sport, tu vois, à suivre d'autres nanettes qui faisaient le même programme que moi.
C'est comme ça.
Voilà. Et en fait, ce qui est assez chouette, quand tu démarres un peu sans attente particulière, moi, je ne savais même pas que tu pouvais gagner de l'argent avec Instagram à la base, parce que c'était encore très peu démocratisé, on va dire. Et en fait, les choses ont pris de l'ampleur sans vraiment le vouloir. Tu vois vraiment des gens, et parfois ça transpire quoi dans leurs publications, qu'ils publient vraiment dans l'objectif de je publie à telle heure, je publie telle photo.
Il manque un peu d'authenticité.
Mais c'est ça. Je pense qu'il faut pas. Alors, on calcule tous un peu. Ça serait mentir de dire que tout est totalement spontané. Mais
oui.
Il faut avoir un fil conducteur, mais en fait, il faut aussi s'autoriser à être spontané. Et à publier juste ce que tu as envie de publier, à dire juste ce que tu as envie de dire. Ne pas trop. Et surtout prendre du recul par rapport à ça, parce que toute notre vie et toute notre activité ne tourne pas qu'autour de ça. Enfin, dire avant Instagram, comment les gens faisaient.
Oui, puis il y a d'autres choses qu'on peut faire et mettre en place pour développer son activité, quoi. Il n'y a pas que ça. C'est vrai que moi, c'est vraiment le truc sur lequel je veux communiquer beaucoup, c'est que c'est OK de mettre Instagram au service de son business si on y est à l'aise et qu'on arrive aussi à être authentique dessus. Mais il ne faut pas que ça devienne sa vie au service d'Instagram, quoi. C'est là où ça devient dangereux, en fait.
Ce qu'il y a, c'est qu'après, ça met une pression énorme. C'est-à-dire que tu te lèves le matin en te disant « OK, il est telle heure, mince, je me suis levée trop tard pour poster. » Pourquoi pas, mais voilà, faut quand même prendre un petit peu du recul sur tout ça. Et vraiment, je pense que ce qui est important aussi, on n'en a pas forcément encore parlé mais peut-être que tu avais prévu, mais aussi ne pas se brader. Franchement, alors, parce que ça, la question de l'argent et du prix, moi, je sais que j'en ai beaucoup parlé avec d'autres connaissances qui sont, alors, pas forcément dans le yoga, qui sont même d'ailleurs très peu dans le yoga, mais plutôt dans du coaching, dans du fitness, en autre chose. Les gens ont parfois peur de leur valeur, entre guillemets, de la valeur qu'a leur travail. Et donc, pour être sûr d'avoir des clients, ils vont mettre leur cours 5 euros, 7 euros, 10 euros. Alors oui, c'est du live, oui, c'est de la vidéo, mais ton travail, il a autant de valeur que si tu le faisais en présentiel, en fait. Et alors, bon, là, je te le dis de façon très à l'aise, mais moi aussi, je me suis posé la question, et c'est des personnes bien plus expérimentées que moi qui m'ont un peu poussé dans mes retranchements en me disant « ne te brade pas, tu vas le regretter ». Il vaut mieux mettre un petit peu haut et diminuer. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'étais partie d'un certain prix. Et puis après, il y a eu des reconfinements, etc. J'ai rebaissé mes tarifs.
Oui, donc tu as pu jouer un petit largement. Peu là-dessus.
Et puis après, j'ai remis un tarif, un espèce d'entre-deux. Enfin, mais en fait, il vaut mieux partir un petit peu haut et puis réajuster si on en a envie.
Tester, oui. Et réajuster, oui.
Et après, je me souviens d'une discussion. Mais c'est ça, je me souviens d'une discussion avec un pote qui est excellent, qui est vraiment une pépite au niveau fitness, enfin, au niveau, ses cours sont incroyables. Et en fait, il me dit, bah, en fait, j'ai mis mes cours pas assez chers. Et il me dit, le problème, c'est que si j'ai que, admettons, 4 personnes à mes cours, une fois que je déduis mes charges, etc., mes 23% là, qui partent en fait, il me dit, mes cours sont pas rentables. Et il me dit alors que si j'avais mis un peu plus cher, même les jours où j'ai pas beaucoup de monde, ça serait quand même un minimum rentable. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Et moi, j'en parle souvent avec des personnes qui justement vont faire leur formation de prof de yoga et qui commencent un petit peu à réfléchir à, après comment je m'organise. Je leur dis, s'il vous plaît, ne vous bradez pas, vraiment.
Ouais. En plus, c'est rendre service à personne parce que ça nivelle les marches, le prix du yoga et le marché du yoga vers le bas en plus. Donc, ça rend service à personne en soi, ni à soi-même, mais ni à notre communauté de yoga en fait, parce que aucune raison qu'on se tire vers le bas, quoi.
Exactement. Et après, moi, je me souviens parce qu'à un moment, avant qu'il y ait du confinement, j'avais commencé aussi à proposer des cours particuliers. Donc, pareil, les cours particuliers, je me suis fait aider pour élaborer mes prix, etc. Et même moi, je me disais, mais est-ce que moi, personnellement, je mettrais ce prix-là? Enfin, et on m'a dit, mais en fait, c'est ça, le cours particulier, c'est pas 50 euros, quoi. Tu y vas pour une personne, tu te déplaces. Si tu avais un cours collectif à 10 personnes, il faut que ton cours avec une seule personne soit rentable. Donc, globalement, les gens à qui j'avais affaire étaient OK là, sur le tarif, très bien, voilà, parfait. Et je me souviens une fois d'une fille qui me pourrit un peu, quoi, et qui me dit, ouais, je comprends pas ton tarif, comment veux-tu que ce soit accessible, etc. Et à un moment, je lui ai répondu simplement, je lui ai dit, mais en fait, dans la vie, tout n'est pas accessible à tout le monde, et c'est comme ça. Moi, je me suis payée de cours particuliers, parce que, alors, peut-être que j'aurais pu, mais en tout cas, j'avais pas envie de mettre mon argent là-dedans. Ouais. Voilà, ça ne faisait pas partie d'une priorité, donc je payais une salle de sport 20 euros par mois et ça m'allait très bien. Mais peut-être que j'aurais pu m'organiser différemment si ça avait été une priorité pour moi. Et en fait, je lui dis, mais dans la vie, c'est triste, mais c'est comme ça. Tout n'est pas accessible à tout le monde. Demain, là, moi, je dois changer mon canapé. Je ne vais pas m'acheter un canapé à 2000 euros et aller dire au magasin, je ne comprends pas que votre canapé, vous le vendiez 2000 euros parce que tout le monde ne peut pas l'acheter. Non, c'est comme ça, en fait.
Il a
sa qualité, il a ceci, il a cela qui font qu'on a déterminé ce prix. Si c'est trop cher pour moi, je vais voir ailleurs. C'est aussi important de remettre les choses un peu dans leur contexte, surtout après ces longues phases de confinement où les gens ont été habitués à la gratuité et où il y a des gens qui sont raisonnables et qui comprennent que c'était une parenthèse, que c'est une phase. Mais tu peux aussi te trouver face à des discours beaucoup plus agressifs et beaucoup plus difficiles à gérer. Et il faut vraiment être au clair avec ça. Ça fait jamais plaisir quand on te dit ça. Ouais. Moi, ça m'est pas arrivé souvent, mais voilà, ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois. Bon, il faut être au clair avec ça. Et aussi rappeler aux gens que tout ne va pas dans ta poche non plus. Donc, ton loyer ne va pas se payer avec des lives gratuits, quoi.
Mais est-ce que tu as, à un moment donné, envisagé de vivre à 100% du yoga ? Est-ce que ça te passe par la tête ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit ou qui te traverse encore l'esprit aujourd'hui ?
Alors, c'est une question qu'on me pose très souvent. C'est une question forcément qui se pose, que je me pose, que je me suis posée. Je pense être assez au clair avec la réponse. Je ne pense pas en faire toute mon activité parce qu'en fait, parce que je pense que ça ne correspond pas à ma personnalité. Il m'a fallu presque 8 ans pour m'en rendre compte, mais je pense que ça ne correspond pas à ma personnalité d'avoir une seule activité. Là où je m'en suis rendu compte, c'est que moi, je suis passionnée par mon boulot d'assistante sociale qui, progressivement, en est arrivée à me dégoûter. Vraiment à me dégoûter, à avoir... à en pleurer quand j'en parlais, à en pleurer quand j'étais au travail. Vraiment à me bouffer littéralement. Et je n'en pouvais plus j'en pouvais plus de ce job. Et là, en fait, par exemple, de l'avoir redécouvert à mi-temps, je reprends vraiment plaisir à exercer mon activité. Je retrouve le pourquoi du comment j'ai choisi cette activité, on va dire. Donc, ça me va. Et pareil pour le yoga. Je pense que le yoga, aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à donner mes cours. Je prends énormément de plaisir à créer mes cours. Mais parce que je ne fais pas que ça. Parce que à côté, y a toute la partie création de contenu, parce que je bosse sur la création de retraites de yoga, parce qu'en fait, j'ai plein d'autres projets. Je pense que moi, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, moi, j'ai pu identifier que finalement, faire la même chose au quotidien, ça ne me convient pas. Donc en fait, par exemple, me dire tous les jours, j'ai 5 cours de yoga du lundi au vendredi et puis le samedi matin, je pense qu'à un moment, ça va me gonfler en fait.
Ouais.
Parce qu'en fait, quelque chose qui est un plaisir, qui est une passion, va devenir une contrainte. Alors après, on est bien obligé de travailler. Il y a toujours une petite part de contrainte dans le travail. On n'est pas dans le monde des bisounours. Mais en tout cas, j'arrive aujourd'hui à exercer chacune de mes activités sur un temps qui ne va pas venir me... Comment dire ? Parfois, tu vois, au bout de 2 jours et demi à l'hôpital, il y a des situations qui sont tellement catastrophiques. On a énormément de pression. Enfin, voilà, c'est quand même 2 jours et demi très intenses. Mais en fait, au bout de 2 jours et demi, je ne suis pas non plus lessivée. Donc, OK, 2 jours et demi, ça y est, je passe à autre chose, le yoga...
T'as pas le temps d'arriver au moment où ça te fatigue, ça te lasse, te sentir débordé, dépassé, épuisé. T'en arrives jamais là en fait. T'as toujours l'esquive d'aller sur l'autre activité qui arrive pile au bon
Exactement.
Moment et qui fait qu'il y a un bon équilibre. Donc c'est comme ça que ça te nourrit et c'est comme ça que t'es.
Exactement. Moi, c'est un mode de vie où je m'épanouis pleinement. Peut-être que d'autres, ça ne leur plairait pas du tout. Mais en tout cas, je pense que si à un moment, on se sent vraiment un peu étouffé par son job, peut-être que c'est une piste à explorer, le fait de diversifier ses activités.
Ouais. Comment on fait pour organiser ses journées, surtout comme quand toi, on a 3 activités, je pense des journées assez intenses. Alors, est-ce que tu as des astuces d'organisation ? Est-ce que tu délègues certaines choses ? Comment tu fais pour te préserver avec ce rythme-là ? Et effectivement, si tu as des failles, on veut bien les connaître aussi, parce que comme ça, peut-être que ça nous rassurera, nous, sur nos petits défauts aussi d'organisation. Mais voilà, sur ce sujet-là, qu'est-ce que tu peux nous dire ?
Alors, bon, déjà, moi, je suis vraiment une quiche en organisation. J'ai l'art de me laisser déborder. En fait, mon problème, d'ailleurs parfois mon chéri me dit, mais quand tu me dis le matin tout ce que tu dois faire, je sais déjà que ça ne va pas rentrer en fait.
Je connais ça.
Je te vois partir confiante et sûre de toi, mais je sais qu'à la fin de la journée, tu n'auras pas pu tout faire. Et moi, j'ai mon gros problème, vraiment, j'ai l'impression que mes journées sont extensibles. Et je me dis...
Tu surestimes, ouais.
Ah, j'ai ça à faire, ça à faire. Et vraiment, je me dis, c'est bon, ça passe large. Limite, je pourrais peut-être faire ça aussi en plus. Puis j'arrive à la fin de la journée, complètement désemparée, mais en fait, j'ai fait que la moitié et encore, enfin, voilà. Donc voilà, je suis pas du tout un modèle encore d'organisation, mais j'y travaille. Et donc, déjà, déléguer, comme tu l'as dit. Alors, déléguer, ça peut avoir un prix, ça peut avoir un coût. Moi, par exemple, j'ai délégué la gestion de mon site internet. Parce que je ne sais pas faire, parce que c'est pas mon domaine, créer un site internet, c'est des compétences que je n'ai pas, le codage, tout ça, bon, voilà, moi je ne connais rien. Et en fait, voilà, je travaille avec quelqu'un qui gère mon site internet, qui m'accompagne, qui a un rôle aussi un peu de conseil sur tous mes projets, etc. Et franchement, déjà, c'est un soulagement de travailler avec cette personne, vraiment. Certes, c'est forcément un investissement, mais derrière, c'est une telle qualité de travail que lui m'apporte. Enfin, moi, je pourrais pas faire aussi bien, en fait, sur sa partie. Je ne pourrais pas faire aussi bien. Je ferais forcément moins bien. Donc voilà, c'est génial. C'est aussi, du coup, une personne extérieure, une personne neutre qui peut me donner un avis vraiment...
objectif.
Un avis totalement objectif sur tout ce que je fais. Donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, effectivement, déléguer dans la mesure du possible. Déléguer et ne pas hésiter, en tout cas, à demander conseil à des personnes plus expérimentées. Donc, ça, je pense que c'est vraiment important. Et après, alors, moi, j'étais un peu... je pensais être un peu la reine de la to-do list, mais en fait, j'avais n'importe comment. J'en avais une sur mon téléphone, une écrite, griffonnée sur un bout de papier... Je faisais des to-do list qui font une page entière, voilà. Et en fait, là, maintenant, je me suis vraiment... alors, ça, je ne respecte pas toujours, mais en chaque début de semaine, je m'imprime un semainier et ouais. je me dis, OK, idéalement, j'ai tout ça à faire, mais il y a des choses, tout ne doit pas être fait le lundi, quoi. Il y a des choses qui pourront être faites le vendredi et ce n'est pas grave. Donc, j'essaye à chaque début de semaine, maintenant, de me dire... Ok, idéalement, là, j'ai tout ça en tête. Déjà, je l'écris parce qu'en fait, je me suis rendu compte que garder en tête,
ton cerveau. Chargement de...
Parce qu'en fait, c'est clair. Il ne faut pas que j'oublie, Bien sûr, tu vas oublier. Et donc après, tu vas dépenser une énergie folle à essayer de te souvenir de ce que tu voulais faire. Ça sera trop tard. C'est l'enfer. Donc déjà, le fait d'écrire, c'est basique, mais en fait, déjà, ça t'enlève un poids énorme. Et moi, j'apprends vraiment... Et voilà, les deux choses vraiment que j'apprends, c'est à prioriser, parce que pour moi, tout était important au même titre, alors qu'en fait, non.
Oui.
Prioriser et arrêter un peu de procrastiner. Parfois, je me dis, mais là, il y a une heure qui vient de s'écouler, j'ai rien fait.
Ouais. Et pourtant,
je n'ai pas allumé la télé, j'étais pas au téléphone avec une copine. Mais je sais pas, j'ai fait du rien, mais en plus, du rien qui ne m'a même pas apporté. C'est même pas genre, j'ai fait une sieste et au moins, je me dis, ça m'a fait du bien. J'ai traîné sur mon téléphone, j'ai grignoté un truc, mais vraiment des trucs qui servent à rien, en fait. Donc, j'essaye aussi quand je commence, ou je sens que je suis en train de procrastiner, c'est vraiment bien. Non. Arrête. Et il y a pas longtemps, j'ai entendu une petite phrase que sûrement beaucoup de gens connaissent, mais j'ai entendu cette petite phrase qui est quand même vraiment très utile, où on te dit, en gros, l'idée, c'est que tout ce qui va te prendre moins de 2 minutes, fais-le.
Oui, tu peux le faire tout de suite. Ouais.
Alors, il y a la version 5, il y a la version 2 minutes, voilà. Et en fait, parfois, j'y pense et je me dis, mais c'est vrai, en fait. Pourquoi est-ce que ça, je me dis, je vais faire plus tard, alors que là, en fait, en 2 minutes, c'est plié, terminé. Donc voilà, vraiment écrire, déléguer et éviter de procrastiner.
Et ce que tu as dit aussi très justement, donc en fait, qui est la fameuse matrice d'Eisenhower, c'est bien identifier dans tout ce qu'on a à faire ce qui est urgent et important, ce qui est important mais moins urgent, ce qui n'est pas important et pas urgent et auquel cas qui peut peut-être être éliminé carrément ou éventuellement fait tout de suite si ça dure moins de 2 minutes. Et donc ça, effectivement, c'est une vraie stratégie d'organisation et qu'on peut faire très facilement, comme tu l'as justement dit, tout simplement déjà en mettant tout sur une feuille blanche et puis après mettre ça un petit peu dans des cases et essayer de jouer avec ça tout au long de la semaine. Ouais, hyper intéressant. Bah, merci Mathilde pour ces conseils d'organisation. Je sais qu'on adore ça sur ce podcast. Tout le monde est hyper friand de ça. Mais c'est vrai, de toute façon, tout le monde cherche toujours à optimiser son organisation, à gagner du temps, à essayer de grappiller une heure par-ci, par-là pour faire encore plus de choses. Donc, c'est toujours intéressant de savoir comment font les autres. Et alors, il y a une dernière chose que j'aimerais aborder avec toi. On en a un petit peu parlé en début d'épisode. C'est, du coup, toi, tu as un rôle d'ambassadrice d'une part et d'autre part, comme tu nous l'as dit, tu fais aussi quelques petites collabs de temps en temps. Et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça parce que moi, j'incite aussi pas mal quand même les profs de yoga justement à aller chercher aussi des collaborations. Alors, c'est pas forcément représenter un produit, hein, ça peut être aussi juste faire un live en commun pour partager en fait une audience commune et puis tu vois mieux se faire connaître ou autre. Mais voilà, je pense que tu as une belle expérience en termes de collaboration avec des marques ou autres. Est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça pour justement comment se positionner par rapport à ça, ce qu'il faut faire, comment collaborer, est-ce que c'est bien, voilà, je sais pas ce que tu peux nous dire sur le sujet.
Alors, je pense qu'effectivement, c'est une autre porte d'entrée. C'est une autre porte d'entrée. Donc, alors, effectivement, il y a la version collaboration annuelle, on va dire. Et puis, tu as la collaboration très ponctuelle, juste sur une fois, etc. Je pense qu'il ne faut pas hésiter si on est, entre guillemets, pas forcément au stade, mais avec vraiment des guillemets, hein. Au stade où on va venir nous chercher, je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur d'aller démarcher, de y aller. Quoi. De proposer à une marque, je ne sais pas, admettons, j'ai n'importe quoi, il y a une marque de tapis de yoga, on aime particulièrement ce qu'elle fait, on aime ses valeurs, c'est important de travailler avec des gens qui partagent vraiment des valeurs qui nous parlent. Parce que voilà, ce tapis il est fait dans tel endroit, il est fait dans telle matière, parce qu'il y a tel message qui est véhiculé, etc. Et en fait, il faut oser envoyer un petit mail, envoyer un message sur Insta, expliquer pourquoi cette marque elle nous plaît particulièrement et qu'est-ce qu'on aimerait proposer. Un live, pourquoi un live, quel est l'intérêt qu'on y voit. Parler du produit de la marque, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut proposer. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment oser, d'autant plus que, comme on le disait au tout début, c'est que les marques, de plus en plus, vraiment, se tournent vers des personnes qui vont avoir une audience, mais pas forcément une très grosse audience, parce qu'ils vont voir en ces personnes l'authenticité, en se disant, cette personne, peut-être qu'elle n'a que 1000 ou 2000 abonnés, mais en fait, ces 1000 ou 2000 personnes, ils sont vraiment là. Si en plus, on voit qu'il y a un réel échange, quelqu'un vous écrit un commentaire et puis vous lui avez vraiment répondu, il y a un vrai partage d'informations. On va voir en ces personnes-là un discours peut-être plus authentique parce que moins peut-être de côté un peu superficiel où je le fais parce que je sais pas, parce que voilà, j'ai une audience, parce que je veux garder cette audience et de façon un petit peu moins désintéressée quelque part. Et donc, qui travaille quand même régulièrement et depuis longtemps avec des marques, je vois vraiment progressivement, ça fait déjà un moment que c'est le cas, mais ça ne fait que se développer, où on va chercher des gens beaucoup plus pour leurs compétences, pour le message qu'ils véhiculent, pour les valeurs qu'ils laissent transparaître, plus que leur nombre d'abonnés.
Exactement, oui.
Et donc ça, il faut pas du tout se dire non, j'ai pas beaucoup d'audience, j'ai pas beaucoup d'impact, on va pas s'intéresser à moi. Non, parce qu'aujourd'hui, on va pas s'intéresser à vous par rapport à votre nombre d'abonnés, on va moins regarder les chiffres, on va plus regarder qu'est-ce que vous véhiculez. Donc, je pense qu'en fait, il faut oser, faut y aller au culot. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a à perdre? Rien. Peut-être que le projet ou l'idée qu'on va proposer à quelqu'un, ça ne va peut-être pas leur plaire. C'est pas grave. Ça plaira peut-être aux voisins, en fait. Donc, il faut y aller. Mais après, il faut prendre le temps vraiment d'identifier pourquoi je voudrais proposer tel projet à telle marque et pas à une autre. et que aussi les gens qui reçoivent cette idée, cette proposition, sentent que c'est pas un message qui a été envoyé à 10
ouais,
personnes
exactement.
Différentes ouais. et qu'on a, on a un réel intérêt. Enfin, moi, je sais que même moi, quand j'ai une marque qui me démarche, parfois on
oui, tu vois tout de suite, ouais. Mmh. Ouais, tu vois si c'est pour toi ou si c'est pour ouais.
Oui, voilà, c'est bête, mais tu vois, l'autre jour, il y a une marque qui m'envoie un petit message et puis elle commence en me disant, j'avais posté une brioche que j'avais faite. Puis en fait, elle commence en me disant, ah bah au fait, ça avait l'air super bon ce que vous avez cuisiné. Enfin, c'est bête, mais en fait, tu te dis, bah voilà, la personne, elle s'est vraiment intéressée à moi. Et au contraire, t'as des gens, ils t'appellent par le mauvais prénom.
Oui.
Ils vont te proposer un truc pour des enfants alors que t'as pas d'enfants. Enfin.
Ouais,
et là,
ça n'a pas de sens.
Mais en fait, ça n'a pas de sens. Donc, vraiment, l'authenticité, le lien, et en fait, voilà, et oser. En fait. Il faut oser.
Ouais. Mais ça, on est carrément d'accord là-dessus. Oser, donc, ça, c'est important. Tu l'as dit aussi, donc, ne pas sous-estimer aujourd'hui ce qu'on est capable d'apporter à une marque, même si on n'a pas des millions de followers. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Et la dernière chose, moi, que j'avais mis en avant quand j'avais fait un épisode justement sur les collaborations, c'est aussi que de toute façon, aujourd'hui, toutes les marques ont énormément besoin de contenu versus il y a peut-être quelques années en arrière. Donc, ne pas sous-estimer qu'en fait, notre proposition peut être retenue parce que c'est l'occasion aussi pour la marque d'avoir des choses à offrir à sa communauté ou à son audience, d'avoir quelqu'un qui parle d'elle aussi. Et bah voilà, quelque part, si ça vient à la marque plutôt qu'à elle d'aller chercher ou démarcher ou autre, ça peut être une très belle opportunité. Et c'est en ça qu'il faut aussi oser le faire. Tout le monde aujourd'hui a besoin de contenu. En proposant, on peut peut-être rendre service aussi aux marques. Il ne faut pas négliger ça, en fait, je trouve. Donc, en tout cas, c'est je pense aussi les collaborations, un vrai levier pour développer, pour se faire connaître, pour développer sa visibilité de plus en plus. Et puis dans le yoga, bon, bah, en ce moment, il y a de quoi faire, je pense.
Je rajouterais juste un petit point pour les collaborations. Ouais. Et je le dis parce qu'en plus, moi, je ne pense pas toujours à le faire. Et à chaque fois, je me dis, il faut penser à le faire. C'est important aussi, une collaboration, il faut aussi que ça aille dans les deux sens. Et il ne faut pas hésiter aussi, par exemple, si on démarche une marque et elle est OK, très bien. Alors, bon, après, là, c'est encore un autre sujet. Et là, le podcast durait 2 heures. Mais bon, il y a des collaborations qui vont être rémunérées, d'autres non. Il y a des gens qui sont à l'aise, d'autres qui ne sont pas à l'aise. Bon, ça, c'est un autre sujet, la rémunération des collaborations. Mais en tout cas, si on, peu importe qu'elles soient rémunérées ou pas, je pense que c'est aussi important pour aussi pouvoir profiter de la visibilité de la marque. Certes, par exemple, le prof de yoga va parler de tel produit, de tel concept, de tel truc, enfin, peu importe. Ne pas oublier de demander à la marque, est-ce que vous pourrez aussi repartager ma story, mon post, etc. Moi, franchement, je le dis parce que je ne pense quasiment jamais à le faire. Et parfois, je me dis, mince, j'ai partagé un truc et c'est dommage, la marque n'a pas relayé le message. Ça aurait pu avoir plus de poids, etc. Et vraiment, je ne pense jamais à le demander, mais j'y pense après coup. Et vraiment, je pense que ça aussi, c'est important parce que, bah, surtout pour des personnes qui débutent et qui veulent justement augmenter un peu leur visibilité, bah voilà, c'est un petit peu à double sens.
Carrément. Non, mais tu fais bien de le préciser. Ouais. Bon, c'est hyper intéressant tout ça. Je crois qu'on a bien profité de plein de tes conseils et de ton expérience. Alors écoute, moi pour terminer, j'avais envie un petit peu que tu nous parles quand même de tout ce que tu es en train de faire en ce moment, de tes projets, de là où tu vas, c'est quoi l'avenir de Mathilde YogiFit. Donc voilà, si tu veux nous partager un petit peu la suite pour toi. Alors, enfin la suite, oui. Il y aura toujours ton activité, on a compris, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et voilà, si tu veux bien nous partager tout ça, tes projets un petit peu.
Alors, bon, déjà, moi, comme tu as pu un peu peut-être le comprendre, Alors, tout ceci n'est pas le fruit du pur hasard, mais c'est vrai que je n'ai jamais trop calculé tout ce qui se passe. Donc, c'est vrai que je m'autorise depuis, en fait, depuis le premier confinement, parce qu'on a eu beaucoup de temps pour réfléchir. Jusqu'à présent, je ne m'autorisais pas trop à avoir vraiment des projets, et même dans tout, hein, dans ma vie pro, dans ma vie perso. Je ne suis pas quelqu'un qui se projette sur énormément de choses parce que j'ai toujours tellement peur que ça n'arrive pas. que je me dis non, bah, on verra, ne pensons pas à trop de choses et on verra bien ce qui se passe. Bon, et puis en fait, l'expérience montre que c'est quand même bien d'avoir un peu des objectifs, peut-être qu'ils n'aboutiront pas, mais ça te donne quand même un peu un fil conducteur et un fil rouge. En tout cas, là, vraiment les choses qui me tenaient vraiment à cœur, bah, c'était de développer donc les retraites de yoga. Il y en a eu donc une qui a été faite. Il y en a deux autres qui arrivent, qui sont datées, qui vont arriver. Donc ça, c'est génial parce que je sais que moi, c'est quelque chose. Je savais avant même de faire la première que ça allait énormément me plaire parce que j'aime les gens, j'aime le contact, j'aime le côté de faire vivre une expérience en fait aux personnes que j'ai en face de moi et pas juste un cours en fait, mais vraiment une expérience. Et c'est vraiment d'ailleurs ce mot expérience qui me guide un petit peu désormais. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer le plus possible, entre guillemets, parce que puis je suis convaincue surtout de tout ce que ça peut apporter de bénéfique aux gens. Donc, voilà. Il y a ce projet-là avec Kaizel où on développe une tenue de yoga. D'ailleurs, pour le coup, j'y suis allée au culot. Clairement, ils ne sont pas venus me chercher. C'est moi qui suis allée, qui les ai contactés. C'est moi qui les... Alors, pour la petite histoire, Kaizel, on avait travaillé ensemble. Alors, tout début, c'était il y a 2 ans à peu près. Et on avait travaillé sur vraiment un one-shot. On n'avait jamais rebossé ensemble. Mais en fait, je les avais toujours un petit peu en tête en me disant, c'est quand même vachement chouette ce qu'ils font. Enfin, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup leur positionnement. Et je me suis dit, tiens, bon, j'ai retrouvé le mail de 2018 ou 2019, je ne sais plus. J'envoie, mais vraiment au culot en disant, mais voilà, Sophia, je te recontacte. Voilà, j'ai tel projet, j'adorerais concevoir une tenue de yoga pour telle raison. Voilà un peu les idées que j'ai, etc. Je te balance ça comme ça, voilà, bah, tu me dis ce que t'en penses. Et en fait, donc c'est marrant parce qu'elle me dit, écoute, c'est drôle parce que je pensais justement à toi, parce que c'est un projet qu'on aimerait développer et t'étais la personne à qui j'avais pensé pour le réaliser. Donc, comme quoi, parfois, les planètes sont alignées. Et en fait, on a commencé à bosser ce projet et c'est génial parce que enfin moi c'est un domaine mais enfin le textile la conception d'un vêtement mais je ne savais absolument pas comment ça se crée voilà de comment tu commences comment tu termines mais vraiment je n'en ai aucune idée et bah je trouve déjà que c'est un univers passionnant. Je trouve ça génial de comprendre, avant que ça arrive entre tes mains, toutes les étapes de conception qu'il y a eu avant et de réflexion. Et en fait, pouvoir me dire, moi, je suis d'une exigence redoutable au niveau de mes tenues de yoga. Vraiment, il y a beaucoup de marques qui m'envoient des vêtements que je ne porte pas parce que,
Oui, j'ai vu quelques stories sur...
Ouais, et encore, c'est une marque parmi tant d'autres. Et bref, passons, ouais. En tout cas, c'est une marque parmi d'autres, mais il y a vraiment, mais même des marques que j'aime beaucoup qui parfois te sortent un produit et tu te dis, mais pourquoi en fait? Enfin, je sais pas comment ce produit a été pensé, mais ça fonctionne pas en fait. Et donc, je me suis dit, j'ai vraiment envie, moi, de pouvoir proposer un produit qui correspond vraiment à moi, ce que j'expérimente au quotidien dans ma pratique, ce qui me semble le plus adapté. Alors après, c'est toujours pareil, on a des morphologies différentes, etc. Donc, moi, un vêtement qui me va n'ira pas forcément aux autres, mais en tout cas, de pouvoir proposer quelque chose qui, moi, me parle et un peu l'idéal que j'ai d'une tenue de yoga. Donc, je suis hyper excitée par ce projet.
C'est pour quand la tenue?
Alors, on vise le mois de novembre. On vise le mois de novembre.
Ok, d'accord.
Bon, voilà, c'est notre deadline. Donc, on vise le mois de novembre et c'est hyper excitant. Donc, il y a ce projet et après, on reste dans du moyen terme. Il y a un projet d'écriture. Alors, je ne me lance pas dans l'écriture de ma biographie ou de je ne sais quoi. Enfin, c'est pas du tout moi qui me lance dans un projet personnel d'écriture, mais on m'a contacté pour participer à l'écriture de 2 ouvrages, en fait. Donc, je n'ai pas encore la certitude à 100% que tout ça va réellement aboutir. Mais en tout cas, voilà, je suis déjà très touchée en fait qu'on ait pensé à moi, vraiment. Pour tout dire, hier j'enregistre un autre podcast et c'est exactement ce que je disais à ces personnes en me disant que voilà, quand bien même ça n'aboutirait pas, le simple fait déjà qu'on ait songé à moi pour l'écrire, bah en fait je me dis waouh, c'est énorme,
ouais, c'est vrai. Ouais.
Énorme. Donc voilà, il y a ces deux projets qui sont assez différents et qui, je pense, vont être très chouettes. Donc voilà, qui sont pour 2022. Donc voilà, on verra. Et après, si je devais te donner un projet, alors là que j'ai sur un long terme, vraiment, qui n'est absolument pas datable, on va dire. J'ai un peu ce rêve d'avoir mon lieu de, pour proposer des retraites de yoga. Ça, c'est vraiment quelque chose, toujours un peu dans le même esprit là, que la tenue du yoga, de me dire, bah, en fait, j'ai un peu un idéal. C'est pas toujours simple, en fait, quand tu vas, entre guillemets, chez les autres, de trouver cet idéal parce que ben voilà les enfin bref c'est pas toi qui as pensé les choses hein, tu l'as pas pensé par rapport à toi donc. Et en fait je me dis bah waouh quoi un jour avoir vraiment cet endroit que je pourrais imaginer et concevoir vraiment dans ce vraiment ce but de pouvoir proposer des retraites de quoi est-ce qu'on a besoin pour que bah, cette retraite se passe au mieux, de quoi les gens ont besoin. Voilà, donc ça, alors
ton,
là,
ton temple à toi, quoi. Ton temple
ouais,
à toi,
ça.
Ton univers à toi, ouais.
C'est ça. Et là, et ça, franchement, je me dis, mais waouh, si un jour j'arrive à ça, enfin, ouais, c'est, franchement, ça me fait rêver, vraiment.
Bah, c'est un super beau projet. Voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de venir faire des retraites de yoga.
Allez,
dans cool. Dans cet endroit, waouh! Et je crois aussi qu'il y a un petit peu autour de tout ça, une idée de marque en fait qui se crée, c'est ça? Tu réfléchis un petit peu à Mathilde, un petit peu plus l'entreprise, quoi, la marque, quelque part, alors sans dévoiler de nom ou autre, hein, mais, mais c'est intéressant, je trouve, cette réflexion.
Ouais, je pense que c'est les prémices de quelque chose. De quoi exactement, je ne sais pas, mais c'est les prémices de quelque chose où effectivement j'ai envie de donner un petit peu plus de sens, un petit peu plus de cadre à tout ça. Je sens en fait que voilà, en moi il y a beaucoup beaucoup de projets. En fait, ça a commencé où bah tu vois quand tu bah là tu conçois un vêtement, on te dit bah est-ce que tu as un logo qu'on pourrait peut-être mettre sur l'étiquette, sur ceci. Ah bah non, j'ai pas en fait. Ah ouais, c'est vrai que ce serait pas mal. Tiens, bah, sur tel tapis de yoga, si on met ton logo, ah, mais je n'en ai pas. Et en fait, tu dis, OK, bon, là, les choses quand même prennent une certaine ampleur.
Ouais.
Ça serait bien, en fait, de rendre les choses voilà, un petit peu plus carrées, prendre un peu de recul sur tout ça, un petit peu de hauteur. Et là, je fais des choses de façon un peu dispersée. Mais ce qu'on ne pourrait pas finalement. Un peu, ouais, un petit peu découvert, un peu comme ça vient. Est-ce qu'on pourrait pas finalement regrouper un petit peu tout ça sous une entité un peu unique? Et donc, du coup, il y a ce logo qu'on a créé et que j'adore.
Un peu que j'adore aussi, j'ai vu.
Merci.
Story, j'adore.
Merci. Et en fait, on s'est dit, bah, OK, au-delà du logo, en fait, autant trouver un nom. Peut-être, je pense que dans un premier temps, c'est surtout mon logo qui va me servir et qui, voilà, qui va être utile, entre guillemets. Le nom, dans un premier temps, va être... je vais un peu moins m'en servir, je pense. Mais le nom, c'est peut-être un peu plus pour préparer l'avenir. Mais voilà, donc c'est les prémices, je pense, un peu de tout ce que j'ai envie de
quelque chose d'un petit peu plus grand, et... ouais. D'un voilà. Beau chemin, en tout cas.
Ouais, et puis, c'est, ouais, et puis quelque part, c'est donner un peu plus de relief, en fait, tu vois, ouais. à tout ça. Et c'est hyper chouette. Franchement, c'est hyper chouette.
Mais c'est super. En tout cas, écoute, moi, je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès pour la suite. Parce que pour t'avoir vu, entre guillemets, depuis ton yoga teacher training jusqu'à aujourd'hui, même si, encore une fois, tu as eu une vie avant ton yoga teacher training, mais... Voilà, je trouve que les choses sont faites avec authenticité. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est voilà, step by step, sans trop de vouloir tout, sans trop de gourmandise, sans mettre, comme on dit, cette vieille expression, mettre un peu la charrue avant les bœufs. Mais tu vois, quand je vois que ça fait plus d'un an que tu exerces et puis aujourd'hui, tu te poses la question de ton logo, eh ben ça, je trouve ça génial parce que… Non, mais c'est juste le truc par lequel il ne faut pas commencer, quoi. En fait, voilà, il faut commencer par… par donner, par partager, par avoir des offres, par justement faire vivre une expérience aux gens, créer du lien de confiance, savoir ce que veut notre audience, ce qui on est vraiment, quelles sont nos valeurs, vers quoi on veut aller. Et voilà, je trouve ça super parce que bah, naturellement, c'est un petit peu ce que tu as fait en fait. Et c'est ce qui pour moi est gage de succès et de réussite dans son job et dans sa vie du coup. Donc voilà, je suis ravie d'avoir pu partager un petit peu les coulisses de tout ça avec toi. Je te laisse peut-être le mot de la fin, Mathilde, s'il y a quelque chose que tu veux nous dire pour terminer cette interview.
Bah écoute, déjà un grand merci, vraiment merci. Et puis bah voilà, c'est un super moment. C'est toujours hyper intéressant ce genre de moment parce que tu finalement, ça te fait aussi un peu cogiter sur toi-même, ça te fait prendre un petit peu de recul. Tu vois, limite, là, je sais qu'on on va raccrocher et je vais bouillonner d'idées. Et je vais ne pas procrastiner aujourd'hui, en tout cas, j'espère. Mais voilà, donc vraiment un grand merci. Et en fait, le mot de la fin, je pense que si j'avais un seul conseil à donner, c'est de toujours faire les choses par plaisir. Alors, il y a toujours un peu des contraintes, mais en tout cas, vraiment de faire les choses par plaisir. Avec authenticité, de faire les choses comme on aime et pas comme on pense qu'elles devraient être faites parce que les autres ont fait comme ça. Et ouais, voilà, l'authenticité, la spontanéité, être soi-même dans tout ce qu'on fait, parce que même à travers des réseaux sociaux, même à travers un site internet, même à travers tout, à travers des cours de yoga, ça se ressent. On va ressentir voilà cette authenticité. On est voilà, je pense que là on est beaucoup de yogis là à écouter ça, et je pense que on n'a pas non plus choisi cette voie par hasard. Si on a choisi cette voie, c'est parce que on s'intéresse à l'humain, c'est qu'on aime les autres, qu'on fait quand même preuve d'empathie, qu'on s'intéresse aussi à notre propre bien-être, à notre fonctionnement au corps humain, au développement personnel, enfin bon, à toutes ces choses absolument incroyables qui nous entourent. Et en fait, il ne faut pas perdre de vue pourquoi à un moment on s'est dit « ben ouais, en fait, c'est cette voie-là que j'ai envie de prendre ». Parce que derrière, oui, il y a un business, derrière, oui, il y a de l'argent, et comme on l'a dit, ce n'est pas incompatible, mais toujours quand même revenir à l'essentiel et pourquoi à un moment on s'est dit en fait je vais faire ça de ma vie, parce que ça doit quelque part, c'est un peu notre ligne conductrice, et c'est ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes, et c'est ça en fait que les gens, soit les gens qui nous suivent sur Instagram, les élèves, voilà, les élèves qui prennent des cours avec nous, c'est ça en fait qu'ils ont envie de voir, c'est ça qu'ils ont envie de ressentir, et c'est aussi pour ça qu'ils sont là. Que ce soit à travers les réseaux ou pendant nos cours, et ça doit rester vraiment le plus important.
Bah écoute, merci beaucoup Mathilde pour ce mot de la fin, merci pour ton temps, merci pour tout, et puis j'espère te retrouver peut-être dans quelques mois pour un nouvel épisode et des nouveaux projets.
Avec plaisir.
Avec grand plaisir Mathilde, à très bientôt, merci encore.
À bientôt, salut.
Si tu as écouté jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. Si tu veux supporter YogiBiz Podcast, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un témoignage sur Apple Podcast. Et c'est vraiment simple à faire. Tu vas sur l'application Apple Podcast, tu cherches YogiBiz Podcast, et une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, tu cliques sur « S'abonner » et puis tu descends tout en bas jusqu'à la section « Évaluation et avis ». Ici, tu cliques sur 5 étoiles et tu peux me laisser ton témoignage. Dis-moi par exemple pourquoi tu écoutes YogiBiz Podcast et comment le podcast a eu un impact dans ton business. Un énorme merci à toi d'avoir pris le temps. À la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.